Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Swear. Ra, ra, puis bon débat, ra.
Eh ben attention, ça y est, on est parti pour balancer notre prochaine mixtape. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de la soirée. On va parler de Khamzat Chimaev, et puis quelque chose qui, peut-être, nous inquiète. Nous allons voir ça avec Ross, donc on a déjà fait deux podcasts autour de Khamzat, de son style, des éventuelles attentes que peut avoir l'UFC par rapport à ce talent. Et ça s'affiche d'ailleurs en suggestion ici et là, attention, ça ne rigole plus. Ce qui est intéressant, mon cher Rust, c'est que là, donc, il revient le 19 septembre, il devait revenir à la base en août, il y a eu des problèmes de visa. Finalement, grâce à Dana White, il a son visa pour aller aux États-Unis. Il combat donc le 19 septembre contre Gerald Merchert, qui est un, on va dire, un petit journéeman. Et on se fait un petit journéeman. C'est pas quelqu'un qui devrait lui poser beaucoup de problèmes. Et ensuite, il est déjà prévu face à Demian Maia sur la, Fight Thailand. Ma question, grand 1, c'est, est-ce que le fait d'avoir déjà deux combats prévus, c'est pas un peu bizarre? Et est-ce qu'aussi, surtout, l'UFC, là, ils y vont pas un petit peu trop fort avec lui?
En tout cas, j'ai pas souvenir d'un athlète à l'UFC, d'un combattant, pour lequel l'UFC ait autant mis les petits plats dans les grands directs. Parce que même Conor McGregor, qui pourtant, dès ses premiers combats, les commentateurs, Dana White, tout le monde était en mode « Ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un moment donné où ils aient prévu deux combats en même temps pour ce gars-là. À la limite, d'ailleurs, c'est un bon exemple parce que Conor, je crois que quand il a combattu Dennis Siver, c'était déjà à moitié prévu qu'il combatte ensuite pour le titre.
C'est ça.
Donc, on pourrait considérer que, mais encore, c'était pas exactement ça parce que c'était, il fallait un combat pour Boston. On va voir Dennis Siver qui est quand même un petit test, etc. Ok, c'était évident pour tout le monde que Conor allait combattre ensuite pour le titre et que c'était juste pour faire patienter. Mais là, le fait de vraiment clairement le dire de la part de Dana White, le fait de prononcer les mots, ouais, bon, bah, il a deux combats de prévus. Ouais, il a deux combats prévus et donc d'abord un contre Meshert et le deuxième contre Maia à la Fight Thailand. C'est assez énorme. Ça vous donne un peu une idée. Le seul comparatif qu'on pourrait avoir, c'est McGregor. Et encore, c'était pas autant. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qui est en train de se tramer avec Khamzat. Là, Dana White, il est en train de se dire, j'ai ma poule aux œufs d'or tchétchène, quoi.
Et donc là, de retour le 19 septembre, il voulait être un petit peu plus actif. Normalement, ça devrait passer tranquille. Je suis un peu surpris, en fait, par ce combat-là, à part la volonté, finalement, de l'UFC, juste de dire, Dana White, de réussir son pari, tu vois, de dire, bah, j'ai pu le faire entrer sur le territoire américain. Mais sinon, c'est bizarre parce que, personnellement, qui gagne ce combat-là, ça va rien lui apporter de plus. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme son deuxième combat à l'UFC où c'était juste pour dire, bah, tu vas battre le record de victoires, le moins espacé, donc à savoir 2 victoires en 10 jours.
Je pense qu'il y a un peu de ça. En vrai, je pense qu'il y a un peu de... premièrement, c'est la fameuse, tu vois, c'est gonfler le highlight, c'est-à-dire que ça va leur permettre d'avoir de nouvelles images. Quand ils vont faire des mash-up de Khamzat qui éclate des mecs au sol, ils vont pouvoir avoir 3 têtes différentes. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, c'est vrai que clairement, il y a ce côté, les stats, il y a ce côté... après, malgré tout, mine de rien, Meshert, c'est quand même un petit step-up par rapport aux deux précédents. C'était un petit step-up, mais c'est un step-up quand même. Le gros step-up, ça va être passer de Meshert à Demian Maia. Là, il y a peut-être un petit peu d'abus. Après, honnêtement, moi, je serais excité parce que malgré tout, même si le step-up est pour moi beaucoup trop précipité, beaucoup trop, surtout... parce que pour moi, c'est Demian Maia.
Là, nous ne sommes pas d'accord. Parce que en gros, pour moi, je trouve que Demian Maia, c'est parfait. Déjà, en fait, le problème, on en avait déjà parlé, je crois, c'est On avait déjà parlé, mais le problème, c'est qu'il est tellement bon au sol et dangereux debout que même la plupart des top contenders seraient vrais, enfin, des membres du top 10 seraient dans le dur face à Khamzat. Donc, t'as pas beaucoup de mecs qui, aujourd'hui, peuvent lui poser problème. Et là, c'est pas du tout parce qu'on est. On s'enflamme un petit peu sur notre cher Khamzat ou qu'on le voit trop beau. C'est, enfin, là, c'est très, très compliqué, on va dire, à manœuvrer Khamzat à l'heure actuelle. Alors que Demian Maia, pour moi, c'est parfait. Dans le sens où je pense que le combat va se dérouler, à mon avis, debout et que Khamzat va se faire plaisir debout pour le terminer debout.
Voilà. Ah, bah c'est là où je suis pas sûr, tu vois.
Je pense qu'il va pas parce du tout prendre le risque, en fait. Et du coup, tu vois, ça lui permet d'ajouter un nom sur la page Wikipédia, ça fait bien. Emballer, c'est peser.
Parce que moi, tu vois, j'aurais tendance à me dire... Alors, là, c'est de l'hypothèse, mais ouais. J'aurais tendance à me dire... Il est invaincu, il est jeune, il est...
Ambitieux, parfois vicieux.
Pas de sentiment que de sentiment. Mais il a, à mon avis, il est tellement en confiance et sur la pente ascendante que je serais prêt à mettre une pièce sur le fait qu'il a envie de justement marquer l'histoire, tu vois. Je serais prêt à mettre une pièce.
Et soumettre Demian Maia.
Alors, bah, soumettre, ça va être compliqué, je pense, mais au moins, c'est genre le finir au sol en ground and pound, tu vois.
Oh, ouais.
Parce que je serais, franchement, je serais très étonné. Alors, donc, il y a le fait qu'il est invaincu, en confiance, ouais. Jeune, ça, c'est déjà pas mal. Mais il y a aussi son caractère, en fait. Mm-hmm. Son surnom Borz, c'est vraiment un loup. Mais dans le sens, tu vois, il aime le sang, tu vois, il aime la chasse. Eh ben, j'aurais du mal à me dire. Qui va entre guillemets la jouer safe quand on prend tout ça en considération. Oh, franchement, là, je en plus, tu vois, même dans leur camp d'entraînement, à mon avis, dans leur camp d'entraînement, même si Michael, je sais plus comment il s'appelle, le boss du All-Star Gym en Suède, est quelqu'un de super bon, de réfléchi, de calme, de posé, etc. Mais je me demande malgré tout si, quand même, dans ce camp d'entraînement, il n'y a pas une inertie. Qui va faire qu'ils vont se dire clairement, on a une pépite, clairement, on a un prodige. Allez, tentons le diable, tu vois. Parce que pour le coup, si jamais ils
oui.
Pas. Mais si jamais ils mettent au sol, contrôlent au sol, parce que c'est possible de contrôler au sol. Si jamais ils le contrôlent au sol et qu'ils le finissent à un moment donné en ground and pound, là, et c'est possible, tu vois, c'est possible qu'ils se disent ça. Enfin. Non. Parce que si l'objectif n'est pas la soumission, c'est pas du tout que ce sera facile ni évident. C'est franchement, il faut bien qu'on se rende compte qui est Demian Maia, tu vois. Enfin, en plus, c'est du sol, c'est-à-dire que c'est un striker d'exception qui aurait en plus quelques facultés athlétiques. À 45 piges, ça commence à être compliqué. Si c'est pas un style qui repose purement sur la technique, ça commence à être compliqué.
Et je pense qu'il essaiera même pas. En vrai, je pense qu'il essaiera pas. C'est trop. Honnêtement, je suis d'accord. Ce serait beau. Ce serait beau pour le panache et tout, mais c'est tellement risqué. Enfin, tu vois, quand tu sais que même un mec comme Burns n'a pas trop voulu s'y aventurer, tu vois.
Ouais, mais Burns, j'ai l'impression que c'est pas... Burns Monsieur Burns, ce n'est pas... C'est pas Khamzat, tu vois, je pense.
Oui, mais...
Tu vois, on parle souvent de ce facteur X. Mm-hmm. Je ne l'ai pas nécessairement quand je vois combattre ou quand j'entends Gilbert Burns, même si c'est un combattant d'exception. Je l'ai quand je vois Khamzat, tu vois, et quand je l'entends, et quand je le vois parler, quand je le vois se mouvoir, quand je vois sa confiance, ce qui dégage, j'ai vraiment ce facteur, il y a quelque chose de pas normal qui est en train de se passer. Et du coup, j'ai envie de me dire, même si Burns, par exemple, a été un peu frileux, bah Burns n'est pas Khamzat, Khamzat n'est pas Burns, et je pense que Khamzat... voilà, on en fera des t-shirts. Et je pense que Khamzat... est prêt à des sacrifices et est prêt à des risques que n'était pas prêt à prendre Burns. et la boucle est bouclée.
ouais.
Job de Mike. Ouais.
Enfin bref, en tout cas, ce combat-là, il est prévu a priori sur la Fight Island, donc sera vraisemblablement octobre pour notre cher Khamzat. Bon, pour moi, clairement, c'est bien parce qu'en plus, c'est un combat que Khamzat souhaitait, où il avait justement tweeté à Demian Maia. T'es une légende, je te respecte, mais t'es le prochain. J'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, je pense que tu vois, si pour moi, c'est gagnant-gagnant pour lui, parce que s'il arrive à le mettre KO debout, bon, bah, ça fait quand même un nom. Il arrive que c'est quand même une grosse, grosse performance pour un mec qui démarre. s'il arrive à le finir au sol, comme tu le dis, bah, là, clairement, j'ai pas ce qu'on veut dire, c'est historique. Parce que
c'est clair.
Là, pour la catégorie, c'est vraiment un message de dire n'allez jamais au sol avec ce mec-là. Ouais. Parce que même si vous êtes bon en JJB, enfin, je suis même pas bon en JJB, même si vous êtes l'un des meilleurs de tous les temps en JJB et que vous avez les skills que personne n'a dans la catégorie, bah, il peut vous finir. Et en plus, le gars est un cauchemar en lutte. Donc là, clairement, le sol, vous oubliez à tout jamais. Et dans ce cas-là, j'ai pas envie de dire title fight directement. Mais en vrai, c'est très compliqué. Hein, parce que n'importe quel gars, peut-être aller à la rigueur. À la rigueur, tu vois, j'aimerais bien l'avoir contre Wonderboy, tu vois, après.
Ouais, c'est ça. Ouais, ce serait bien.
Ce combat-là, tu vois. Mais parce que sinon, moi, j'ai peur qu'il casse du contender ou qu'il... Ouais. C'est le gros, gros risque. Et là, c'est une question que je pose à nos auditeurs. C'est, j'ai peur qu'ensuite, tu vois, t'es vraiment un énorme step-up. Parce qu'il va pas pouvoir, justement, bénéficier d'un... Si tu bats Demian Maia, tu peux pas ensuite grandir en ayant un Neil Magny, un mec comme ça.
Ouais, non, c'est ça.
Ou même un Nico Price. Tu bats Demian Maia...
Non, mais non, tu peux pas.
T'es top 7.
Non, parce que pour le... Mais c'est ça, parce que le problème, c'est que là... Allez, on va parler un petit peu graphique, mathématique, mais là, il est sur une courbe qui est exponentielle. Le problème, c'est que tu peux pas... Si tu lances ta courbe exponentielle, bah, revenir ensuite, enfin, quand t'es sur un truc...
Exactement.
Voilà. Tu pars comme ça, tu peux pas ensuite revenir ici, c'est pas possible. Et donc le problème, c'est que Demian Maia, il est là sur la courbe exponentielle. Après, t'es obligé de prendre un autre tueur à gage. Tu peux pas, ne serait-ce que prendre quelqu'un qui est au même niveau. Faut suivre la courbe. Et le problème, c'est que suivre la courbe en passant de Jarl Meschert à Demian Maia, c'est une courbe qui va direct au title fight, quoi. Ouais. Donc mathématiquement, là, j'ai envie de dire, c'est prouvé, quoi.
Non, compliqué. Non, je pense qu'ils ne lui mettront pas directement en title fight. Peut-être, ils peuvent, j'allais dire, jeter en pâture. Mais c'est peut-être un peu dur. Mais tu vois, ils peuvent essayer de mettre Leon Edwards, tu vois. Ou ça fait un combat qui est...
Après Demian Maia ?
Ouais, et ça fait un combat qui est chaud. Mais ça fait un combat qui est chaud, mais dans le sens où l'UFC a quand même un petit peu envie de se débarrasser de Leon Edwards. Et d'un autre côté... Si effectivement Khamzat bat Leon Edwards, bah là, c'est terminé. Mais après, je pense que Leon Edwards va refuser de ce combat.
Oui, je pense aussi. Et je le comprendrais, très honnêtement. T'as rien à gagner.
Ah non, oui, c'est ça, exactement. T'as rien à gagner. Mais c'est pour ça, je pense que rapidement, l'UFC va être un petit peu emmerdé par Khamzat. Parce qu'on est quand même dans une catégorie. C'est différent de la catégorie Light Heavyweight où on avait eu Volkan en 2017 qui était arrivé avec trois victoires. Dont deux par KO en l'espace de quelques mois et qui avait été chaud parce qu'il n'y avait personne. Là, c'est dans une catégorie où quand même, vous avez Colby Covington. S'il venait à battre Woodley, là, il est en starter pack title shot. Il y a, mine de rien, aussi Jorge Masvidal qui est toujours en embuscade. Et puis, il y a Burns qui affronte Kamaru Usman en décembre. Donc, la catégorie, elle est quand même assez chargée, je trouve. Compliqué quand même pour Khamzat de réussir à se frayer un chemin, surtout, et c'est là aussi, pour moi, où c'est un petit peu compliqué, on en parle assez souvent avec l'UFC, où c'est vrai que tu as aussi ce côté méritocratie. Même si Khamzat est super bon, tu es quand même un peu obligé, je trouve, de faire la queue. Enfin, parce que pour les mecs qui sont là, qui font que d'affronter, et puis aussi, on en avait déjà parlé, Leon Edwards, tu vois. Si Leon Edwards revient, bat un mec du top 5, bah, tu peux pas dire Khamzat, t'es là depuis 6 mois, tu y passes devant comme ça.
Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Enfin, c'est clair qu'il y a une file d'attente et bah, au moins, il faudrait que Khamzat ait la courtoisie de démonter un mec de la file d'attente. Enfin, c'est vrai que ça paraîtrait. Ce serait. Parce que Demian Maia n'y est pas dans la file d'attente.
Ouais.
Donc, c'est vrai que. Honnêtement, c'est vrai que méritocratiquement parlant, c'est clair que même si on dit qu'il y a la courbe, que machin, que c'est exponentiel. Bon, exponentiel, je me suis peut-être un peu emballé, mais en tout cas, c'est clair que ça va très vite, très haut, très fort. Malgré tout, c'est vrai qu'il faut au moins un mec après Demian Maia avant le title shot.
Oui, non, clairement.
C'est vrai que on s'est peut-être un petit peu emballé parce qu'il faut, ouais, c'est ça, il faut au moins, que tu puisses valider la case. T'as démonté un des mecs qui attendait le title shot.
C'est ça.
C'est vrai que c'est un prérequis finalement. Ouais.
Et on va regarder les rankings, mais c'est vrai que c'est une situation qui va être, franchement, ça va être assez intéressant. Et aussi, il y a ce truc qui est un petit peu compliqué. Et là, on n'avait pas parlé jusque-là avec Khamzat, mais là, quand vous voyez les efforts qu'a fait l'UFC, parce que vraiment, c'est pas anodin, que Dana White se dise il a la possibilité d'attendre la Fight Island. comme il part pour regarder ce qui s'est passé avec Cyril Gane, qui a eu son combat, qui a été déplacé de Las Vegas à la Fight Island, où Cyril Gane, c'est quand même un énorme prospect. L'UFC s'est dit, bah, on va quand même attendre pour faire son combat qui est très important contre Shamil Abdourakhimov. Là, il y a la volonté vraiment de Dana White de dire, déjà, c'est quand même assez galère qu'il ait son visa, il obtient le visa, il le fait combattre. Enfin, ils font vraiment des efforts pour lui, et je pense que l'UFC prendra pas, c'est aussi pour moi l'autre indicateur sur le fait que le title shot ou de grandes choses vont arriver, pour lui. C'est dans le sens où je pense que l'UFC a pas non plus envie qu'il leur casse du contender comme ça, tu vois. Ça va devenir un problème.
Mais c'est ça, c'est vraiment en fait c'est un problème et une bénédiction, Khamzat. C'est-à-dire que l'UFC peut en faire vraiment, véritablement, sa nouvelle star, mais dans le sens, là, ses réseaux sociaux, il est quasiment déjà à 500 000, un truc comme ça, sur les réseaux. Tout le monde le connaît, il bénéficie d'un push qui est hallucinant. Donc, c'est une bénédiction quand même, parce que c'est ce que l'UFC veut, des superstars. Mais c'est vrai que d'un autre côté, sa progression est juste tellement rapide. Et là, tu le mets contre n'importe quel prospect, parce que bon, bah, si tu veux faire un truc prospect contre prospect ou un truc comme ça, il y a des chances. Et c'est vrai qu'il faut probablement tempérer en disant on verra quand il sera contre un mec qui est top 10 et qui sera complet, comment ça se passe, etc. Mais voilà, on a quand même cette sensation que ça va aller très vite. Et bah, c'est vrai que le problème, c'est que ça fait un petit peu comme Ngannou heavyweight, c'est-à-dire que tu as un mec qui est OK, il n'est pas champion, mais tu le mets contre n'importe qui, il va probablement le tuer. Et bah, c'est pas bon pour les affaires, quoi. Donc c'est vrai que ça va devenir un problème.
Et surtout que là, pour finir, Demian Maia est actuellement classé 7e de la catégorie. Donc, en cas de victoire, Khamzat prendrait sa place. Et surtout, juste après, donc, voilà le combat dont on avait parlé, Stephen Thompson. Ensuite, c'est Tyrone Woodley, Masvidal, Edwards, Covington, Burns. Enfin, directement ensuite. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. C'est Stephen Wonderboy, c'est le seul gars qui fait que si tu le bats, t'es pas title, enfin, tu n'as pas le title shot, c'est obligatoire. On peut encore discuter. Mais après, tous les mecs qui sont classés au-dessus, bah, t'as plus le choix. Et là, clairement, hein, on est dans une situation où Khamzat Chimaev contre Kamaru Usman ou le champion pour 2021, c'est très probable.
C'est envisageable. Hein. C'est clairement envisageable. C'est fou de se dire ça. C'est du délire. Bah, bien joué, Khamzat. Hein.
Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Ouais. Et surtout, en plus, qu'il va peut-être réussir à faire ça. Et je veux dire, pas à la manière de Conor McGregor où certains, tu vois, peuvent dire bah t'as battu justement Dennis Siver pour avoir le title shot. Là, il va peut-être pouvoir le faire de manière où tu te dis vite, donnez-lui le title shot parce que bah là, il est en train de raser la catégorie.
Ouais, c'est ça. Il est inarrêtable. Enfin, il est temps de. Il est temps de lui donner quelque chose à manger, quoi.
Ah, c'est fou. Franchement, c'est fou.
C'est vrai que comme mot de la fin, on peut vraiment mettre l'accent là-dessus, mais c'est hallucinant de se dire à quel point c'est allé vite. Honnêtement, avant la Fight Island, je ne connaissais pas, et donc c'était il y a quoi, il y a 2 mois, je ne connaissais pas Khamzat Chimaev. Et là, on est en train de dire, on envisage un combat pour le titre d'ici quelques mois. C'est hallucinant quand même.
Non, c'est fou. Après, peut-être que Demian Maia veut balayer tout ça d'un étranglement.
Ce serait le game, ce serait le jeu.
C'est le sport, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, parce qu'on vous voit venir vous enflammer et tout, le doute est permis. Et si Khamzat venait à battre Demian Maia, bah clairement, là, il est dans les starting blocks. Hein. Je rappelle quand même, hein, Gilbert Burns, c'est exactement ce qui s'est passé. UFC Brasilia, il bat Demian Maia par TKO. En short notice, ensuite, il affronte Tyrone Woodley. Et title shot, tu l'es promis juste après.
Ouais.
Et pourtant, Gilbert Burns, il y a un an, il affrontait... L'Islandais.
Gunnar Olsson.
Exactement.
Ouais, c'est vrai. Démonstration, voilà. D'ailleurs.
Tout va trop vite. Tout va très vite dans le football.
Ouais.
Allez. Moins de 10% avec le code menaceur sur tout Venom. Sponsor de l'UFC, sponsor du ONE-FC, sponsor de la Sûre. On est ravis qu'il nous accompagne tout simplement. Et puis moins 42% sur tout MyProtein, jusqu'au 14
septembre.
Là aussi avec le code de la Sueur. Et c'est aussi en description. À tchè tchè vite.
À tchè tchè vite.
Swear.
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.